Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page sur Divergence FM et Radio Grille Ouverte. Marie-Pierre Soriano aux commandes. Rock and Page, c'est votre rendez-vous bimensuel avec mes coups de cœur littéraires en tout genre. Et pour essayer de vous convaincre et de les partager avec moi, eh bien je chronique, je vous lis des extraits, j'interviewe l'auteur dès que possible et je fabrique pour vous la playlist qui correspond selon moi le mieux à l'univers du bouquin invoqué. Dans Rock and Page, plus question de cloisonner les genres et les gens. À mon humble avis, tous les artistes œuvrent dans le même sens, partager et faire ressentir. Aujourd'hui, beaucoup d'émotions et de fierté pour moi, du trac aussi, puisque cette affaire-là ne cesse donc jamais, preuve à la pluie. Je me suis essayé à un genre que je ne maîtrise pourtant pas, le documentaire historique. Ne partez pas, n'éteignez pas vos postes de radio, puisque l'ouvrage que j'ai choisi pour vous est le dernier de Georges Semprin, qui s'intitule « Une tombe au creux des nuages ». Il est édité chez Climat, et que vous aurez droit à l'interview que j'ai pu réaliser de Monsieur Semprin avec le concours de la librairie Soramps. Ne bougez donc pas, un grand moment d'émotion à suivre, je vous le dis tout net, mais avant toute chose, voici pour vous le titre qu'a choisi Monsieur Semprin en personne pour évoquer sans mots l'acte d'écrire. Voilà, c'était Miles Davis, choisi par Georges Semprin pour évoquer l'acte d'écrire. Pourquoi Georges Semprin ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est aujourd'hui toute l'actualité de Rock and Page. D'ici une poignée de secondes, vous pourrez écouter le long entretien qu'il m'a accordé à la librairie Soramps de Montpellier, rien que pour vous, auditeurs de Radio Grille Ouverte et Divergence FM. Une interview accordée au sujet de Une tombe au creux des nuages, son dernier ouvrage paru aux éditions Climat. Cet ouvrage est en fait un recueil de conférences qu'il a donné pour la plupart en Allemagne entre 1986 et 2005, et son recueil témoigne surtout de sa quête sans fin sur l'Europe et tout l'espoir que nous aurions, selon lui, tout intérêt à placer en elle. Je vous rappelle quand même que Georges Semprin fut ministre de la Culture en Espagne sous le gouvernement de Felipe González, qu'il s'est battu contre le franquisme aux côtés des communistes pour atterrir à Buchenwald, où il connut la grande barbarie des camps. Je vous rappelle aussi qu'il est l'auteur de Le Grand Voyage en 1963, qui lui a valu le prix Formentor, L'écriture la vie, qui lui a qui lui a permis de recevoir le prix Femina en 1993, et je ne citerai que. Il a aussi écrit pour le cinéma, intellectuel, homme politique et écrivain, français et espagnol. Georges Semprin est aujourd'hui et avant tout un sage, un homme à l'espoir et l'énergie intarissable, un pan humain de la mémoire collective de l'Europe quand elle n'est pas bêtement qu'un système économique et médiocre en plus. Et c'est aujourd'hui avec beaucoup de fierté et de joie que je vous propose de l'écouter. Monsieur Semprin, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis infiniment touchée de pouvoir vous interviewer aujourd'hui. Alors on va commencer directement après la lecture de votre ouvrage. Hein. Est-ce que votre identité d'ex-déporté pourrait évoluer, être remplacée, si l'Europe gagnait une âme, en fait?
Elle pourrait évoluer, sûrement. Elle pourrait évoluer parce que, aujourd'hui, quand moi je pense à l'Europe, j'ai encore, surtout aux périodes de crise comme la crise actuelle, qui est une crise explicable, je ne sais pas, mais enfin bon, c'est quand même une crise. C'est vrai que ressurgissent, reviennent en mémoire des choses qui sont du passé. Mm. Le camp nazi, le camp stalinien, le lieu unique en Europe que ce camp-là, etc. Et que l'Europe sortait de sa crise et qu'on était dans un projet, ça évoluerait.
C'est ça.
Ça évoluerait.
Si c'était moins un système économique simplement,
oui.
Vous seriez,
oui.
Vous deviendrez peut-être autre chose,
oui.
Qu'un ex-déporté depuis Canval.
Voilà.
C'est
absolument,
ça.
Absolument.
Comment l'Europe peut-elle dépasser la chute du nazisme et du stalinisme?
Elle peut le dépasser, mais il faut dire qu'il y a une conjonction de choses qui font que la crise... Bon, il y a un problème structurel, un problème économico-social, et il y a beaucoup de problèmes idéologiques et moraux, n'est-ce pas ? Et en plus, il y a une absence de grands dirigeants, grands.
Bon, de leaders.
De leaders. Il y a une absence de leadership. L'Europe d'aujourd'hui n'a plus les Jacques Delors, les Felipe González, les Helmut Kohl, c'est des gens de droite et de gauche.
Hein. Tout à fait.
Il y avait quelque chose de commun quand même. Helmut Kohl était absolument européen, il a décidé d'ancrer l'Allemagne en Europe, et bon, c'était d'une certaine façon, politiquement et socialement, c'était un homme de droite, il n'y a pas de doute. Mais il s'entendait avec des hommes de gauche, dont Mitterrand par exemple, dont Felipe González, qui garde un très bon souvenir de Helmut Kohl comme dirigeant européen. Aujourd'hui, il n'y a pas l'équivalent. En tout cas, ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils sont peut-être quelque part, mais ils ne sont pas au pouvoir. Alors, donc, la crise a des aspects multiples qui se surdéterminent les uns les autres.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'Europe se construise une âme?
Il faudrait qu'on arrive à... que les dirigeants et les intellectuels européens arrivent à convaincre d'abord la jeunesse universitaire et la jeunesse en général que c'est aussi important de faire de cette Europe de 27 pays, qui est un peu un amas, hein, je ne dirais pas un amalgame pour ne pas être grossier, mais un amas, d'en faire une unité à la fois dans sa diversité et quand même un projet commun, et convaincre que ça vaut la peine. Aujourd'hui, les jeunes étudiants pratiquent l'Europe très bien, ils ont les bourses Erasmus, ils ont la zone Schengen, ils savent très bien beaucoup de choses, mais ils n'ont pas... C'est pas un projet exaltant, c'est une pratique courante, pratique et facile à faire, mais c'est pas un projet. Je crois que le fait de dire, nous allons faire de ces 27 pays, dont certains viennent d'arriver en Europe, dont certains n'ont même pas encore les qualifications, entre guillemets, techniques, n'est-ce pas, parce que, bon, ou économiques, mais qui viennent de l'ancienne Europe de l'Est, de l'ancienne Mitteleuropa, qui était l'Europe.
Alors j'allais y venir. Est-ce qu'on n'a pas beaucoup à gagner de l'entrée dans l'Europe, de l'Europe de l'Est et de la Turquie notamment?
Mais je crois qu'on a beaucoup à gagner. Je crois que l'Europe, c'est... Bon, l'Europe est un territoire qui n'a pas de frontières fixes. On peut très bien dire de l'Atlantique à l'Oural, ou comme Napoléon, de colonne d'Hercule au Kamtchatka. On peut dire... Il n'y a pas de définition géographique de l'Europe. Bon, bien sûr, c'est un territoire qui n'est pas l'Argentine, mais c'est un territoire. Mais le territoire, moi je répète souvent, et je trouve que c'est une très belle formule, une résolution du Conseil européen de l'année 2000, qui terminait ou commençait en disant « la seule frontière de l'Europe, c'est la démocratie ». Voilà.
Oui. Vous paraissez très sûr de vous quant à l'impossibilité de l'apparition de nouvelles formes de barbarie nationaliste. Qu'est-ce qui nourrit cet espoir ?
Non, je ne... Enfin, si je donne cette impression, c'est pas une... Je crois qu'il y a des formes de barbarie possibles constamment en Europe. Mais je crois que celle qu'on a connue au XXe siècle, la grande barbarie des années 30, ne peut pas se reproduire. À commencer par le fait que ce qui a l'air de banal aujourd'hui pour les jeunes et pour les moins jeunes de la réconciliation franco-allemande est un grand événement historique. C'est un grand événement historique. Ça, aujourd'hui, imaginez, on dit des conflits, dit, ah oui, il y a des conflits, des dissensions, il y a des politiques différentes sur la Grèce, il y a eu des... Il y aura encore. Mais personne n'imagine qu'on va mobiliser l'un ou l'autre pays contre l'autre. Absurde. Donc je ne crois pas qu'il n'y a pas des moments de barbarie, avec ou sans guillemets, qui possible. Je crois qu'ils sont permanents. Oui. Je crois que quand on voit comment on traite dans certains pays des Kurdes sans papier, c'est presque de la barbarie. Oui. Mais ça n'a pas cet effet d'entraînement collectif de la grande barbarie totalitaire du XXe siècle.
Le débat actuel sur l'identité nationale et le problème du record de l'abstention au vote, ce sont quand même des choses préoccupantes et inquiétantes.
Oui, là nous sommes dans une période de l'Europe depuis qu'elle existe est à un moment de crise, la démocratie depuis qu'elle existe est à un moment de crise. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise nouvelle qui dure déjà depuis assez longtemps, parce que l'abstention, c'est pas d'hier, c'est pas nouveau. Bon, elle s'aggrave, mais c'est quand même un phénomène endémique de tous les pays, l'Espagne aussi, mais l'Espagne pas dans certaines élections, mais dans des élections qui paraissent moins importantes. L'équivalent des régionales en Espagne n'existe pas, parce que les élections autonomiques, enfin des autonomies, sont très, très concourues, parce que les gens tiennent à leur petite patrie, donc ils se mobilisent beaucoup. Mais des élections comme ça intermédiaires, bon, c'est un mal de la démocratie, l'abstention.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'abstention au vote pour l'Europe.
Il y en a eu beaucoup. Pour l'Europe, il y a aussi beaucoup d'abstention. Mais c'est une maladie qui existe dans la démocratie. Il faut rappeler que la démocratie américaine, nous sommes habitués, nous trouvons ça bon, nous sommes habitués au fait que même les présidents sont élus par une petite, enfin une, pas une majorité d'Américains, mais une minorité d'Américains.
C'est ça.
Ça fonctionne comme ça. Simplement, l'abstention américaine se produit dans un pays où les États et les associations sont beaucoup plus actives qu'en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a de l'abstention politique, mais il y a la participation citoyenne, parfois dans des rassemblements réactionnaires, comme la Tea Party, mais enfin quand même, il y a une participation citoyenne, chose qu'ici en Europe est moins visible.
Elle est moins forte, oui. Si l'Europe s'est construite contre le totalitarisme, de quoi elle doit se méfier à l'heure actuelle ?
Elle doit se méfier à l'heure actuelle des particularismes. Je reprends là une phrase de Claudio Magris, qui est un grand écrivain européen, et qui est dans le livre Danube, est un livre très européen, parce que, ne fût-ce que géographiquement, mais particulièrement, parce que l'Europe a toujours, depuis le début de l'Europe, depuis la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui était la première forme un peu grossière de l'Europe, depuis ce moment-là, il y a deux mouvements contradictoires en Europe. Le mouvement d'intégration, certains aspirent à ce soit une intégration fédérale. Bon, on ne va pas discuter du fond de la question, mais d'intégration, de la supranationalité européenne, et le moment d'explosion de l'identité ethnique ou particulière. C'est le moment où tout le monde va avoir son État, son drapeau, son équipe de football,
etc. Sa souveraineté.
Alors ça, cette contradiction-là, elle peut jouer des effets positifs, dans la mesure où il est peut-être plus facile d'être européen quand on est quand on vit dans une région à forte personnalité. Quand on est catalan et qu'on sait qu'on est catalan, on peut être facilement européen, parce que l'Europe des régions, l'Europe de là, ça existe. Mais en même temps, ça a des effets négatifs, parce que j'ai des conflits sur sur des questions qui peuvent paraître complètement dépassées, sur des questions de frontières, sur des questions de religion, de langue, qui sont des conflits du passé, mais qui sont encore là parce que l'explosion identitaire locale ou particulière est forte.
Vous, en tout cas, pour les problèmes les questions de football entre la France et l'Espagne, vous n'êtes pas embêté.
Non, pas du tout, je suis toujours gagnant.
La France et l'Allemagne actuelles, est-ce qu'elles ne sont pas quelque part responsables de cet échec idéaliste de l'Europe? Est-ce qu'elles ne se sont pas un petit peu contentées de projeter une France européenne, une Allemagne européenne?
Oui, sûrement. Sûrement, il y a dans le. D'ailleurs, dans le. Dans ce couple franco-allemand, qui était le couple directeur, le couple moteur de toute une partie de l'histoire européenne, il faut en finir. Il faut pas effacer ça, bien entendu que non.
Dépasser,
Il faut
oui.
maintenir ça, mais il faut en finir, il faut dépasser. Pour utiliser une métaphore un peu comme ça, un peu banale, je dirais triviale, je dirais que ce couple-là ne suffit pas, qu'il faut une famille recomposée maintenant.
C'est ça, faut plus moderne. Alors, votre avis, puisqu'on est à Montpellier, quand même, sur le résultat des régionales en France?
Sur le résultat de régional, il était prévu et prévisible. Il faut l'interpréter, hein,
Mais
parce
j'espère
que
bien.
c'est un signe très clair sur le plan négatif, mais seulement positif. Pour la gauche, il y a encore beaucoup de choses à faire,
C'est encore une grande question de leader et de
à
dirigeant.
faire. Et c'est pas gagné, c'est pas joué. Parce que le fait qu'il y ait cette mise en question d'une certaine politique et cette mise en question directe d'un président de la République ne veut pas dire que les prochaines échéances soient gagnées par la gauche, hein.
Est-ce que vous aviez pris position avec Hélène Mandroux contre j'ai envie de dire, le populisme de Georges Frêche?
Je sais que j'ai signé un texte, mais je ne sais pas exactement comment il a été utilisé. Mais c'est une question de principe. Le résultat est là, et puis l'histoire connaît pas mal de démagogues. Je peux dire le mot démagogue, je ne plus que populiste, parce que le démagogue, c'est plus ancien, ça vient de la Grèce antique, n'est-ce pas? Pas mal de démagogues qui ont réalisé des choses concrètes pour leur, dans leur.
Tout à fait,
Il n'y
c'est le cas,
a pas de
c'est son
doute.
cas.
Mais je trouve que, quand même, moi, ce qui me choque, c'est que M. Frêche dérape toujours, il dérape toujours à droite. Il ne dérape jamais à l'ultra-gauche, on pourrait dire, bon, il dérape d'une façon comme ça contre la bourgeoisie. Non, il dérape toujours à droite. Que ce soit les joueurs noirs de l'équipe de football, que ce soit les harkis, que ce soit la tronche,
Pas
etc.,
catholique.
pas catholique, c'est que pas comme par hasard, sa voiture dérape toujours à droite. Alors ça, c'est un
C'est
peu gênant.
la loi de la gravité, peut-être. Alors, nous vivons les derniers temps de la mémoire vivante, hein, à part peut-être celle du peuple juif. Mais pensez-vous que la littérature sur ce sujet est suffisamment solide pour ne pas qu'elle meure, cette mémoire?
Je ne peux pas garantir que la littérature soit suffisamment solide. J'espère que la littérature prendra le relais, s'intéressera et qu'elle fera comme elle a fait dans l'histoire déjà, même quand il n'y a plus de poilu de la guerre de 14-18, il y a des romans sur la guerre de 14-18, inspirés par, ou bien par une réalité, une mémoire familiale, ou bien par l'imagination créatrice qui s'empare de cette mémoire-là. J'espère, parce que sinon il n'y aura plus de mémoire directe. Il y aura toujours, bien entendu. Personne ne va effacer les livres des Primo Levi.
Non,
Ils sont là.
ni de Georges Sandfrancs.
Tout le monde peut les lire.
Oui.
Et quand je dis Primo Levi, je pourrais dire d'autres, dont David Rousset, etc. Donc cette mémoire-là, elle est là. Mais cette mémoire vivante, cette mémoire qui était encore nourrie par l'événement même, va disparaître, sauf dans le cas des
C'est
enfants
ça.
juifs qui vont prolonger cette mémoire plus longtemps, parce que ils étaient enfants. Et qu'il n'y a pas d'enfants résistants. Par définition, les résistants ont 17-18 ans quand ils sont très jeunes. Alors que là, il y a des enfants de 3, 4, 5 ans qui sont encore vivants, qui vont donc. Ça va être la plus longue. Mais moi, j'espère fort, j'espère beaucoup. Il y a des exemples positifs comme les bienveillantes de Littell, comme
malgré
la discussion et la raison qu'on peut avoir sur certaines imprudences narratives, hein, je ne parle pas d'imprudence morale, narrative de Hedel, il y a quand même la prise en compte de ce livre qui était...
Complètement.
Bon. Indépendamment de la polémique. Hein, bon. Donc on peut se dire que oui, mais sinon ça va être une matière qu'on va enseigner aux élèves et que vont apprendre, comme ils apprennent la bataille de Rocroi, ils vont apprendre la déportation à Auschwitz. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant.
Quelles conditions doivent être remplies pour que la littérature continue de véhiculer cette mémoire-là ?
Les conditions que doivent être remplies sont d'ordre général, c'est que ce soit un sujet qui intéresse encore et qu'on veut. C'est comme pour l'Europe, s'il n'y a pas de dirigeants européens, s'il n'y a pas des critiques, des théoriciens de la littérature et des écrivains qui disent cette mémoire-là, on se l'approprie, etc., bon, on ne peut pas décréter, n'est-ce pas, ou créer des prix, disons, les prix de la mémoire pour les livres qui, bon, non. Mais si c'est une condition générale que notre société continue à s'intéresser à sa façon, à ce passé-là, y compris pour penser au présent. Ça nous aide à savoir un peu ce qui se passe aujourd'hui. Il y aura sûrement des écrivains qui vont continuer à s'approprier cette mémoire-là.
Dans votre ouvrage, vous mettez quand même le lecteur en garde contre la sacralisation de cette mémoire.
Oui, parce que cette appropriation de la mémoire par les écrivains, etc., doit être volontaire, doit être personnelle, doit être singulière. Si on impose d'une façon sacrée comme ça la commémoration, ça va fatiguer les gens et ça va devenir quelque chose de bon. La commémoration, les commémorations des morts de 14-18...
sont désertées par les jeunes, ouais.
Hein?
Oui, il n'y a pas de jeunes.
Il n'y a pas de jeunes. Et puis, les familles où le vieux grand-père parle de Verdun, c'est devenu classique que les enfants disent « Bon, ben, ça va, Verdun, c'est passé. » Donc, la sacralisation, ça veut dire ça. À la fois la banalisation et le respect absolu. On ne peut pas y toucher. Non, il faut y toucher. Il faut
qu'il n'y ait pas de tabou.
Il ne faut pas qu'il y ait de tabou.
Seriez-vous d'accord pour dire que dans votre vie, la politique vous a soigné de l'écriture, et puis l'écriture vous a soigné de la politique ?
Exactement.
Hein ?
Exactement. C'est même une des chances de ma vie, c'est celle-là. Parce que bon, que la politique soigne de l'écriture, encore faut-il qu'on puisse faire de la politique et qu'on aime
oui,
la politique.
Tout à fait.
Que l'écriture soigne de la politique, encore faut-il pouvoir écrire. Si on n'est pas écrivain, on soigne de la politique différemment. Et parfois, on se soigne très mal de la politique. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire la thérapie de la mémoire des camps à cause de la politique, en partie.
En partie.
Pour une raison très simple, c'est que la mémoire, écrire, c'était rester dans la mémoire constamment.
Oui.
Et la politique, c'est toujours demain. C'est toujours demain qu'on va gagner. C'est toujours demain qu'on fait la guerre générale. C'est toujours demain qu'on abat Franco. C'est toujours demain que la politique est nourrie. Même la politique la plus politicienne, dans le sens qu'on donne maintenant. Même la politique électorale des élections régionales, c'est demain.
Oui.
Un candidat ne vient jamais m'expliquer ce qu'il a vécu étant enfant. Il vient vous dire, demain, nous allons construire une route. Même si c'est pas vrai, même si c'est démagogique, il ne pense qu'à demain. Il ne parle que de demain. Donc pour moi, c'est une thérapie. Et puis quand la politique, pour des raisons personnelles et collectives, s'est épuisée, la politique communiste s'est épuisée, j'ai vu qu'il n'y avait pas, c'était pas une solution.
L'écriture a pris le relais.
Je suis revenu au livre que je n'avais pas réussi à écrire en 1945, qui s'est appelé Le Grand Voyage, il aurait pu s'appeler autrement. Et du coup, ça a été plus facile. Oui.
Est-ce que vous avez d'autres projets d'écrivain ?
Comment ? Mais je ne serais pas vivant à Montpellier si je n'avais pas d'autre projet d'écrire. Oui.
Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, dans quoi vous vous engageriez ?
C'est difficile de répondre parce que 20 ans aujourd'hui, je n'aurais pas la mémoire de tout ce qui s'est passé.
Oui. Hein.
Je crois que comme j'ai une certaine propension ou maladie de l'activité politique au sens large du terme, très large, je serais engagé dans une opération de ONG militaire ou ONG pour la justice, ONG comme ça. Ça remplacerait un peu peut-être l'engagement politique direct.
Alors tous vos grands romans, de fiction j'entends, ont été, vous les avez écrits en français.
Oui.
Pour éviter, je crois me souvenir de votre entretien avec Bernard Pivot, pour éviter le côté un peu kitsch et oui. La grandiloquence espagnole en fait.
Pas seulement, mais en partie.
En
oui,
partie.
Oui.
Votre dernier ouvrage
oui.
a été traduit.
Mon dernier ouvrage est un ouvrage un peu bizarre parce que
il
a été prononcé et dit en allemand.
Oui.
Mais écrit en espagnol et en français, dans les deux langues. Et traduit par moi et par une collaboratrice allemande en allemand. Donc j'ai un livre hybride. Là, les textes qui sont. Certains textes, une partie de ces textes, ont été écrits en français. Donc ils sont publiés tels qu'ils ont été.
Tels qu'ils sont.
D'autant qu'il y a un espagnol est traduit en allemand et retraduit en français après. Alors la partie des textes espagnols qui n'existait pas en français a été traduite par Serge Metz, qui a traduit 20 ans et un jour, que j'étais très, très content de son travail de traducteur. Mais donc c'est un livre un peu hybride parce qu'il n'a pas de langue, il n'a pas de langue originale, unique.
Et c'est contextuel à chaque fois.
Il a plusieurs langues.
Quel musicien choisiriez-vous ou quel morceau de musique pour évoquer sans les mots, ce coup-ci, l'acte d'écrire?
Oh, ça dépend des périodes, ça dépend des moments de ma vie, mais je crois que il y aurait quand même, il peut y avoir des variations, il y a des époques plus classiques que d'autres, mais je crois que de toute façon, pour évoquer l'acte d'écrire, la créativité de l'acte d'écrire, je choisirais un morceau de Miles Davis.
Et pour représenter celui de résister, de lutter.
Les variations Goldberg.
Monsieur Sempron, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, vous venez d'entendre Georges Semprin au micro de Rock'n'Page. Rock'n'Page, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Emmanuel à la technique de Divergence FM que je remercie. Je vous laisse avec les variations sur les variations de Goldberg que Monsieur Semprin a choisi pour évoquer cette fois l'acte de résister. Prenez soin de vous.